Mais qui a tué Monsieur H, de son vrai nom, Dag Hammarskjöld, un homme qui a marqué l'histoire de la diplomatie internationale. Il a été secrétaire général de l'ONU. Officiellement, il est mort dans un accident d'avion en 1961. Mais aujourd'hui, plus personne ne croit à cette thèse. Cet homme gênait pas mal de monde, à commencer par les anciennes puissances coloniales d'Afrique et notamment la France. L'ONU a rouvert une enquête. Elle vient de dévoiler ses conclusions. Un journaliste a également mis son nez dans cette histoire. Bonjour Morin Picard.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant du Figaro à New York. Vous avez fouillé les archives, interrogé de nombreux témoins, 3 ans de travail résumés dans un livre intitulé « Qui a tué Monsieur H ?». Vous êtes d'ailleurs régulièrement cité dans le rapport de l'ONU. Mais avant de revenir à ce rapport, je pense qu'il est nécessaire de rappeler cette vieille histoire. C'est une affaire qui, à l'époque, a secoué la planète.
Oui, Dag Hammarskjöld était le deuxième secrétaire général de l'ONU et son avion s'est écrasé dans la brousse à la frontière du Congo et ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Nord, qui est aujourd'hui la Zambie. Et l'enquête à l'époque avait conclu à un accident au moment où Dag Hammarskjöld essayait de régler une crise qui menaçait de mettre la planète à feu et à sang, la crise du Katanga, où il voulait imposer un cessez-le-feu. Mais son avion s'est écrasé en finale, juste devant un aéroport de brousse à Ndola. Et on a mis longtemps à essayer de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. À minuit 12, au-dessus d'un dollar.
Oui, parce que l'enquête dit officiellement que c'est une erreur de pilotage. Pourquoi vous ne croyez pas à la thèse de l'accident ?
Eh bien, il y a eu une culture du secret pendant plus d'un demi-siècle. Des témoins noirs, à l'époque, n'ont pas osé parler parce qu'on était dans d'apartheid, comme en Afrique du Sud. Les Noirs étaient considérés comme des enfants par les enquêteurs blancs à l'époque, et donc un certain nombre de témoins noirs ont vu un deuxième avion dans le ciel qui a attaqué l'avion de l'ONU.
Et vous dites aussi qu'il y avait des traces de balles sur la carlingue.
Oui, j'ai retrouvé un témoin qui s'est retrouvé nez à nez avec une poignée de mercenaires blancs sur le site de l'épave quelques minutes après le crash. Et il a juste eu le temps avant d'être envoyé se faire pétrailleur par ces mercenaires d'apercevoir la carlingue ravagée par ce qui avait l'air d'être des rafales de balles. Alors, mais il n'en a pas parlé lui non plus pendant plus de 50 ans.
Alors si c'est pas un accident, qui a tué Dag Hammarskjöld ? Il avait des ennemis ?
Il avait beaucoup, peut-être trop d'ennemis pour un seul homme. Il était le secrétaire général dont aucune grande puissance ne voulait plus. Il était un poil à gratter dans le grand jeu de la décolonisation et puis de la guerre froide. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France du général de Gaulle avaient un gros problème avec ce Suédois qui voulait imposer l'ONU comme une troisième force, qui voulait servir de tampon dans ces pays africains en cours de décolonisation, comme la nouvelle République indépendante du Congo. Et il essayait de mettre dehors ces entreprises minières occidentales qui avaient fait main basse évidemment sur le cuivre, le manganèse, l'uranium de cette province extrêmement riche géologiquement qu'on appelle le Katanga.
Et la position de la France, c'était quoi exactement à l'époque ?
Officiellement, la France soutenait le Congo indépendant, était contre la sécession de cette petite province du Katanga. Mais par derrière, on découvre aujourd'hui dans les archives que Jacques Faucard, à la tête de la France-Afrique, avait envoyé des hommes, des soldats d'élite, des officiers, comme le colonel René Faulk, pour essayer de soutenir cette sécession de manière clandestine, quelque chose que Paris a longtemps nié.
Alors, il y a eu plusieurs enquêtes de l'ONU. Un dernier rapport vient d'être publié il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport ? Est-ce que, ça y est, c'est définitif ? On a une réponse ?
Non, hélas, on n'a pas de réponse définitive. On a un juge de l'ONU, après 3 ans d'enquête, qui dit qu'il n'est toujours pas en mesure de une conclusion finale sur la cause de l'accident, mais il répète ce qu'il a déjà dit ces 2 dernières années dans des rapports d'étape, que la plausibilité d'une attaque ou d'une menace extérieure est établie, c'est-à-dire qu'il y a eu une composante en l'air et une composante au sol, la présence avérée de mercenaires dans la brousse et aussi d'un deuxième avion, d'un intercepteur qui a fait feu sur l'avion de l'ONU, mais il appelle certains États membres et pas les moindres, comme le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, les États-Unis, à jouer le jeu, puisque jusqu'à présent, ces États n'ont pas coopéré pleinement avec l'enquête, et on se demande bien pourquoi.
Alors c'était archi-sensible en 1961, au moment de sa mort, mais aujourd'hui, ça l'est moins, non ? Vous pensez qu'un jour, on saura ce qui s'est passé ou pas ?
Mais la grande question consiste à se demander si c'est encore embarrassant politiquement aujourd'hui pour Paris, pour Washington ou pour Londres de reconnaître que à la faveur d'une bavure ou d'éléments félons, eh bien nos pays occidentaux qui sont aujourd'hui de bons élèves de l'ONU, eh bien ont contribué volontairement ou involontairement à l'assassinat du secrétaire général des Nations Unies, ce qui évidemment n'est pas une mince affaire dans la diplomatie contemporaine.
Et vous, au bout de ces 3 ans d'enquête, c'est quoi votre idée là-dessus?
Eh bien, il y a la présence avérée d'officiers français au sol cette nuit-là, dans les environs de l'aéroport de Ndola. Il y a des télégrammes diplomatiques britanniques, quelques jours avant le crash, qui disent que Dag Hammarskjöld est devenu un problème et qu'il va falloir régler ce problème, sans en dire plus. Il y a des avions qui sont en l'air, il y a des pilotes de chasse mercenaires qui n'auraient pas dû se trouver là, mais qui se trouvent là. Il y a beaucoup d'activités dans la brousse, alors qu'on a mis 15 heures à retrouver l'épave de l'avion et à retrouver le cadavre de Dag Hammarskjöld, alors que l'avion s'est écrasé juste en bordure de l'aéroport. Beaucoup d'anomalies.
Une dernière chose à Morin Picard que je trouve très intéressante dans votre livre, c'est les conséquences de sa mort sur le plan diplomatique. Vous dites qu'il y aura, après lui, il n'y a plus jamais eu de patron de l'ONU aussi interventionniste.
Oui, il aurait été le seul de tous les secrétaires généraux de l'ONU à tenter de se dresser face à la volonté des grandes puissances, dont il ne supportait pas l'usage parfois invétéré du droit de veto au Conseil de sécurité. Il avait essayé de mettre tout son poids dans le règlement de l'affaire algérienne, de la crise de Bizerte contre la France et la Tunisie, du Liban en 1958. Il avait obtenu un cessez-le-feu à Suez en 1956. Et ce faisant, il s'était fait beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui, le général de Gaulle en premier, estimait que l'ONU n'était pas à sa place et qu'elle devait simplement obéir à la volonté des grandes puissances.
Ils ont tué Monsieur H, avec comme sous-titre le complot des mercenaires français contre l'ONU. C'est votre livre, Morin Picard, publié au Seuil. Merci beaucoup, vous étiez l'invité du 5-7.